Vous écoutez
RMC. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Frédéric Ploquin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin parce qu'on a grand besoin de vos lumières. Vous êtes spécialiste non seulement du grand banditisme mais aussi de la violence qui a gagné les campagnes. Vous aviez fait ce remarquable documentaire qui s'appelait « La drogue est dans le pré ». Je vous avais d'ailleurs reçu à ce moment-là. Crépol, ce qu'il s'est joué dans la nuit de samedi à dimanche, les arrestations, les réactions politiques, essayer de comprendre si ce drame est singulier ou s'il dit quelque chose de notre société. Je voudrais d'abord qu'on commence par les arrestations. 9 interpellations hier, 7 dans la région de Toulouse, 2 dans la région de Crépol, à Romans-sur-Isère. Qui sont-ils? Est-ce qu'on en sait un peu plus aussi sur leur cabale? Pourquoi Toulouse?
C'est à ce stade, il faut rester prudent, c'est-à-dire qu'on n'a pas le mobile exact des faits, mais c'est ce qui se dessine, c'est effectivement ce qui semble le plus probable, c'est que c'est une histoire de jeunes qui n'ont pas été acceptés dans une fête de village, qui l'ont mal pris, qui se sont sentis, je ne sais quoi, humiliés, blessés, et qu'ils sont revenus avec des couteaux de boucher et de cuisine, et qu'ils se sont attaqués aux vigiles. Ça, a priori, ça paraît la chose la plus probable.
Donc
déjà. Déjà, en tant que tel, je veux dire, quand on a un souci avec un vigile, si le premier réflexe c'est d'aller chercher un couteau de boucher, déjà, s'il y a quelque chose qui dysfonctionne, qui ne va pas, le fait qu'ils aient été arrêtés aussi rapidement, ça témoigne du fait qu'on n'a pas affaire à des grands bandits. On a plutôt affaire à des individus très très bas de gamme. Je veux dire, d'ailleurs, ils sont très jeunes, hein, ils ont 20 ans en moyenne. Il y a même 2 mineurs parmi eux. Mais le fait que ils laissent tomber sur place des éléments qui vont permettre de les identifier. Ils partent en bande comme ça à 7 vers Toulouse pour peut-être aller se réfugier en Espagne et pour certains au Maghreb, dit-on. Ça témoigne pas d'une grande intelligence. Ça témoigne pas, d'une grande préparation. On a plutôt l'impression que c'est une banalisation de la violence chez des gens qui sont plutôt, on va dire, moyen de gamme, pas très structuré.
Alors moyen de gamme, ça c'est évidemment...
Je précise aussi
pour ceux qui l'entendent, c'est que vous êtes spécialiste de tous ces banditismes. Et donc, au fond, quand vous dites moyen de gamme, c'est aussi que vous voyez sur l'échelle du banditisme. Voilà. Il s'agit d'individus, et c'est ce que dit la gendarmerie et le procureur hier, d'individus très défavorablement connus de la police. Donc, quoi, de voyous, de petits voyous?
L'auteur présumé du coup de couteau, lui, apparemment,
du coup mortel,
il aurait eu affaire à la police pour des recels de vol et pour le port d'un couteau, dit-on aussi. Déjà une fois, la justice l'aurait rappelé qu'on ne se balade pas, non, dans la rue. Un téléphone portable, pourquoi pas. Un portefeuille, pourquoi pas. Mais un couteau de boucher, non. Donc il a déjà été rappelé à l'ordre de ce point de vue-là. Donc ça veut dire que lui, il avait déjà basculé dans une forme de, je ne sais pas, de haine, peut-être, des autres. En tout cas, il n'était peut-être pas très, on va dire, il n'était pas fréquentable, ça c'est clair. Et il était, je veux dire, c'est comme si cette issue était un peu écrite et annoncée de son point de vue. Et on n'a pas affaire, donc, je le disais, à un grand voyou.
Quand vous dites cette issue était annoncée, est-ce que la question de la récidive, c'est-à-dire que ce soit des individus qui ont déjà commis des méfaits, qui ont déjà été arrêtés. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous qui analysez tous ces parcours-là, avant qu'on revienne sur les faits, sur ce qui s'est passé précisément dans cette salle des fêtes de Crépol, est-ce que ça veut dire qu'au fond, c'est presque des faits d'armes, des faits de guerre, de dire, voilà, moi, j'ai été arrêté une ou deux fois, mais ça n'est pas une crainte. Être arrêté n'est plus une crainte.
Non, ça c'est vrai, il y a chez ces jeunes-là, parce qu'ils sont très jeunes, c'est vraiment la première chose qui frappe, c'est que cette violence concerne des jeunes de 20 ans à peine, mais effectivement, on peut se demander si la justice leur parle, si les peines qu'ils risquent sont suffisamment claires et explicites pour eux, ou s'ils sont carrément passés de l'autre côté, ils sont dans un espèce de jeu vidéo, ils sont sevrés d'images comme ça qu'ils voient tous les jours d'ultra-violence, et puis il y a une espèce d'accoutumance qui se crée chez eux, et pourquoi pas eux, et pourquoi pas le passage à l'acte. Et c'est ça la différence avec les générations d'avant, c'est que quand il y avait des soucis entre jeunes comme ça, ça se réglait le plus souvent par ce qu'on appelait, ils appelaient ça des tête-à-tête. C'est-à-dire qu'on se retrouvait au milieu d'un terrain de football et puis c'était le plus fort qui gagnait. Mais aujourd'hui, ça ne fonctionne plus comme
c'est
ça.
C'est les descendants du duel, quoi, presque.
Aujourd'hui, c'est ça. C'était un peu ça. Et à un moment donné, ça s'est complètement déréglé. Et maintenant, on n'hésite pas à aller à 10 contre 1. On n'hésite pas à sortir des armes contre quelqu'un qui n'en a pas. Et en l'occurrence, là, c'est pour ça que cette affaire a fait autant de bruit. Pour moi, c'est un coup de couteau planté dans la France rurale, dans la ruralité. C'est un coup de couteau planté dans nos villages d'antan. C'est un peu pour cette raison-là que je suis là et que nous en parlons aujourd'hui. Parce que des coups de couteau dans des balles, dans des fêtes qui dégénèrent, il y en a assez régulièrement. Mais quand ça se passe, comme ça se passe assez souvent dans des banlieues populaires où on a l'habitude de voir des règlements de compte, etc., on n'en parle pas trop, ça fait pas la une des médias. Là, ça fait la une des journaux et on en parle aujourd'hui parce que cette violence déborde des endroits, des territoires où on a l'habitude de la voir et que c'est, comme je le disais, un coup de poignard planté dans le village à la française. C'est ça, c'est le village, l'église, la ruralité et c'est là que ça se passe. Et c'est pour ça que ça crée aujourd'hui...
Autant de réactions. De est-ce que c'est effectivement la rencontre, le point de rencontre, cette fête à Crépol, samedi soir, le point de rencontre entre deux France? C'est ce que, notamment, une partie de la droite, de l'extrême droite a immédiatement... cru décelé, parlant, et c'est là aussi que j'aimerais comprendre avec vous et distinguer, pour le coup, hors des passions politiques, ce qu'il en est. On a eu des mots comme razzia, massacre, barbare, guerre de civilisation, racisme anti-blanc, francocide, qui ont été immédiatement prononcés. Le mot de racaille pour parler des agresseurs, des meurtriers, en l'occurrence. Mettons tout cela à plat. D'abord sur le mot « rix » ou le mot « bagarre ». Le mot « rix » a d'abord été prononcé par le procureur avant que la gendarmerie, elle, dise « non, ce n'est pas une rix, c'est une bagarre ». Quelle est la différence entre les deux et de quoi il s'agit ?
Je pense qu'il faut mettre les bons mots sur les choses. Effectivement, c'est extrêmement important, mais les mots qui vont compter, ce sont les mots que la justice va mettre. Ce sont pas les mots que les politiques.
Qui n'est pas dans le même rythme, hein, et qui n'est pas dans le même temps.
Le mot bagarre, c'est pas un mot judiciaire. Le mot rix, oui, ça peut rentrer dans une case. Mais en l'occurrence, on n'a pas affaire à une rix. On a plutôt affaire à une espèce de raid punitif, si ça se confirmait le déroulé des faits, de la part de jeunes qui n'ont pas pu aller s'éclater dans la boîte dans laquelle ils voulaient aller. On les a refusés, il y a eu affrontement. Donc c'est plutôt le côté raid qu'on va retenir, le raid punitif. Et ensuite, on va se demander si c'était prémédité ou si ça l'était pas. Dans la mesure où ils sont revenus avec des couteaux, est-ce qu'ils étaient au départ avec des couteaux? Est-ce qu'ils vont en boîte avec des couteaux? Où est-ce qu'ils sont retournés chercher des couteaux? La justice va se poser ce genre de questions. Est-ce que c'est prémédité? Est-ce que c'est en bande organisée? Là, pour l'instant, oui, on dit que c'est en bande organisée, ce qui permet d'ailleurs, et c'est extrêmement important d'un point de vue, du point de vue de l'enquête, des gardes à vue de 96
L'enquête
heures.
A été ouverte, je précise, pour après, homicide et tentative d'homicide en bande organisée, voilà, et confiée aux gendarmes.
Ce sont les mots qu'il faut retenir. Ça ressemble pas à une rixe. Une rixe, c'est en gros, deux groupes qui se donnent rendez-vous et qui sont armés de chaque côté de bâtons, de chaînes de vélo ou de couteau, etc. Et là, on s'affronte. Là, c'est pas ça. Là, ce sont des individus qui sont armés contre des gens qui sont en train de faire la fête, en gros, quelque part. Donc, le mot rixe ne colle évidemment pas.
Vous parlez donc de raid punitif. Je vais reprendre certains témoignages. D'après le Dauphiné Libéré, repris également par Paris Match. D'après des jeunes participants à la soirée, il y aurait d'abord eu 4 ou 5 personnes qui ont voulu rentrer dans la salle des fêtes aux alentours de minuit. Puisqu'il fallait s'inscrire préalablement et qu'il était déjà tard, les vigiles leur auraient refusé l'entrée. Il parle également d'un retour. Vers 1h30, 2h du matin, ils sont revenus en nombre. Ils étaient une trentaine, dit la mère de Thomas. Elle dit, d'après les amis de ma fille, ils étaient une trentaine. Une habitante des environs dit aussi qu'ils criaient « on va tuer du blanc ».
J'y étais pas. Si c'est le cas, je veux dire, la justice en tiendra compte. Mais ce qui est clair, c'est que ces événements se passent. Enfin, c'est ça qui nous choque. Ces événements se passent à Crépol, dans un petit village. Mais je rappelle quand même que c'est un village de la Drôme, qui est pas loin de Romont-sur-Isère, qui est pas loin de Valence. Et je rappelle quand même que cet été, nous avons tous évoqué abondamment la question des règlements de compte qui se produisaient à Valence. C'est-à-dire que
vous aviez été un des premiers d'ailleurs à parler de Limoges, de Valence.
Non, mais c'est important de prendre un peu de recul et de marcher un peu en arrière comme ça. Je veux dire, je pense que depuis les années 2000, en gros, c'est le phénomène sociétal de ce point de vue-là le plus important. Il y a une extension de la violence qui a quitté les territoires dans lesquels on avait l'habitude de la voir et qui s'est répandue par le biais du trafic de stupéfiants notamment et des guerres de territoire qu'elle engendre. Ce modèle, on va dire, cette culture du trafic de stupéfiants où on se tue pour un carottage, pour un petit vol, pour ce modèle-là, on a l'impression devient le modèle, se généralise et surtout déborde déborde de ses frontières habituelles. On avait l'habitude de les voir et c'est un peu comme si le modèle marseillais avait colonisé, se répandait un peu partout sur le territoire. Donc des règlements de compte à balance cet été, ça nous a surpris. Comme à Nîmes récemment, avec à chaque fois des victimes collatérales, parce que ce qu'on appelle collatéral, j'ai pas envie. Pour moi, ce sont des victimes tout court. C'est comme quand on parle de violence gratuite, elle est jamais gratuite. Je veux dire, elle a toujours un mobile, un habillage, une raison, etc.
Vous avez parlé d'ultra-violence. Le ministre de l'Intérieur parle d'ensauvagement.
Il y a rien. C'est pas la première fois que Gérald Darmanin utilise ce mot. Il l'avait déjà utilisé en 2020 et il s'inscrit un peu dans une longue évolution. Je rappelle qu'en 1999, un ministre de l'Intérieur, socialiste, Jean-Pierre Chevènement, avait parlé de sauvageon. C'était la première fois. Donc, c'est pour ça que je situe au tournant des années 2000 cette dérive et cette évolution. Donc, de sauvageon, on est passé à l'ensauvagement. Le président de la République, lui, parle de décivilisation. Tout ça, ça forme un tout. Chacun mettra les mots qu'il veut. Après,
mais est-ce que ça recoupe une réalité ? C'est-à-dire, est-ce que quand vous dites dérive, je voudrais bien comprendre de quoi il s'agit. Est-ce que vous estimez que c'est une dérive de vocabulaire ? C'est-à-dire, c'est une dérive des ministres de l'Intérieur eux-mêmes ? Ou est-ce que c'est une dérive de la société et qu'ils ont raison de mettre ces mots-là ?
Il y a deux choses. Il y a ceux qui font de la politique et qui essayent de gagner des voix en exploitant les faits qui existent. Ça, c'est une chose. Moi, je suis plutôt du côté de ceux qui sont là pour analyser les évolution criminelle.
C'est précisément pour ça que je reçois ce matin.
Quand on analyse l'évolution des faits, je te disais, il y a vraiment, effectivement, moi je le constate, moi j'enquête énormément dans les quartiers, dans ce qu'on appelle les cités, les quartiers populaires, et ce qui me frappe à chaque fois, c'est que mes interlocuteurs, qui ont aujourd'hui 30, 40, 50 ans, qui ont un peu vieilli, qui ont connu les cités d'autrefois, etc., mes interlocuteurs systématiquement me disent « Mais fais attention là, Frédéric, si tu vas enquêter dans les cités aujourd'hui, tu vas pas avoir affaire à des gens comme nous, tu vas être confronté à des gens beaucoup plus violents que nous. » Donc même ceux qui les ont fréquentés, qui ont vu grandir ces jeunes-là, sont effrayés. Donc il y a un côté aujourd'hui, sur autrefois, les voyous, grands voyous, ils s'entretuent entre eux.
Il y avait une forme d'honneur.
Il y avait 400-500 grands voyous en France. Ils se sont exterminés, il faut quand même le dire. Ils se sont entretués. Il y a eu des dizaines de morts tous les ans pendant des années et des années. Ils se sont exterminés entre eux. Mais en gros, le grand voyou, il en voulait, il sortait son arme pour tuer, entre guillemets, l'ennemi. Comme ils disent à chaque fois, ouais, j'en ai tué quelques-uns, mais je n'ai tué que des enculés. C'est un peu ça la phrase qu'ils sortaient. Et les enculés, c'était.
J'ai envie de sourire, même s'il s'agit de moi, mais évidemment.
C'était comme ça qu'ils parlaient, et ils s'entretuaient, ils s'exterminaient entre eux. Et à un moment donné, ça déborde.
On a basculé.
Il y a des morts collatéraux, il y a l'apparition d'armes de guerre, c'est extrêmement important dans le paysage.
Bien
parce
sûr.
Qu'on est passé des armes de poing aux armes de guerre. Les armes de guerre, ça induit un comportement, un mental particulier. Pour celui qui l'emploie, ça fait des victimes en dehors de ceux qu'on a l'intention de tuer. La preuve cet été à Marseille avec la mort de la jeune Sokaïna, 22 ans, qui étudiait chez sa maman. La preuve à Nîmes avec Fayette,
qui meurt d'une balle perdue alors qu'elle est près de la fenêtre.
Qui sortait du cinéma avec son tonton. Et la preuve aujourd'hui avec Thomas. Pour moi, c'est la troisième victime d'affilée, comme ça, de ce type de violence qui déborde
n'est
plus contrôlée. Et c'est ça, il y a aussi une désinhibition. C'est, je crois que c'est à ça que fait référence le ministre de l'Intérieur quand il parle d'ensauvagement. Il y a deux choses. Il y a l'extrême jeunesse de ceux qui manipulent ces armes, qui savent pas forcément les manipuler d'ailleurs, qui ont pas forcément appris, qui sont pas entraînés, alors que les grands voyous, eux, effectivement, ils s'entraînent
aussi. Mais c'est une violence décomplexée.
Désinhibé, décomplexé, qui ressemble un peu, c'est un peu comme si la vraie vie rejoignait la fiction, la vraie vie rejoignait les séries télé, on plonge les gens dans les campagnes françaises, dans des séries télé dont ils n'ont pas prévu d'être les acteurs. Donc ils voient ça à la télévision, la violence débridée, désinhibée, on la voit beaucoup dans les séries, on la voit aussi sur les scènes de guerre, on la voit aussi, je rappelle quand même qu'on est dans un climat de violence globale, je veux dire l'antisémitisme, ça fait partie de cette violence, toutes les violences conjugales, les violences faites aux femmes, les violences faites aux enfants. On a quand même globalement dans ce pays.
On est monté d'un cran.
Un niveau de violence.
Enfin, même de deux, si on vous écoute. Alors,
On est monté d'un cran et en plus, je pense qu'on la regarde plus, on la supporte moins, on la médiatise plus parce que cette violence existait dans les années. Il ne faut pas non plus dire qu'on arrive d'un pays.
Est-ce que c'était la même violence ? Je le disais même hier. J'ai eu des témoignages sur RMC de jeunes, un jeune notamment, enfin un jeune, 40 ans. J'ose dire que c'est jeune, mais pas tant que ça. qui vit en Mayenne et qui disait, mais enfin, faut pas exagérer, la violence dans les campagnes, elle a toujours été le cas. Mon père, disait-il, se battait avec ses copains ou avec ses ennemis à coups de chaînes de vélo.
Exactement.
Est-ce que c'est cette même violence, ou est-ce que justement, on n'est plus dans les chaînes de vélo, on est dans le couteau? Est-ce que c'est aussi ça la différence?
La bagarre entre hommes qui veulent être le plus beau, le plus fort, le plus costaud, etc. Non, mais c'était ça aussi, c'est une histoire de virilité. Moi, je suis le plus fort, je suis le plus costaud, c'est moi dans le village qui suis le plus beau et le plus fort.
De rites initiatiques,
effectivement, ces rites-là, ils ont toujours existé. Depuis qu'il y a des balles populaires en France, il y a des bagarres. Alors ça peut être pour des raisons sentimentales, ça peut être t'as approché, t'as regardé telle femme, etc. Bon, ça c'est une chose, mais la chaîne de vélo, on en ressortait avec des blessures, mais on en ressortait pas dans un cercueil. En réalité, c'est ça la grande différence, c'est qu'aujourd'hui on sort de ces affrontements. Je veux dire, dans la rue, je veux dire, pour un rien, pour un appel de phare aujourd'hui, pour une cigarette, vous le savez bien,
les
professionnels de la route ont peur aujourd'hui qu'ils circulent, oui, parce que c'est compliqué, ils préfèrent fermer leur gueule, rester calme, etc., parce qu'on sait que ça peut basculer. Et c'est ça la différence, c'est que on sortait avec un œil au beurre noir et aujourd'hui on sort dans un cercueil.
C'était une balafre et désormais on peut mourir pour un mauvais regard.
Et y compris si on est pour rien dans l'histoire. Regardez Thomas, je veux dire, il fait la fête, le jeune rugbyman de 16 ans, il fait la fête. Bon, on va faire une marche blanche. Mais moi, j'aimerais bien qu'on compte le nombre de marches blanches qui ont été faites. J'ai pas ce chiffre à vous donner aujourd'hui. Depuis l'année 2000, on serait surpris. C'est-à-dire qu'on enchaîne les marches blanches. Et on a raison de s'interroger aujourd'hui sur le pourquoi de cette accroissement de la violence un peu débridée et désinhibée. On a raison de se poser la question.
Frédéric Ploquin, je voudrais vous interroger aussi sur l'opposition de deux Français là-dessus, qu'a insisté une partie de l'extrême droite, parlant même de francocide, se basant sur ce témoignage, un témoignage, on verra si effectivement la justice le confirme ou non, qui aurait entendu ces jeunes, lorsqu'ils sont revenus, crier « on va tuer du blanc ». Au-delà de cette phrase-là, est-ce que l'on peut imaginer que dans cette violence, il y a une question identitaire qui remonte, il y a une question de deux France, ne serait-ce que la question de la France rurale contre la France dite des quartiers? Les jeunes, en l'occurrence, habiteraient pour une partie d'entre eux, en tout cas dans une cité proche de Romans-sur-Isère qui s'appelle le quartier de la Monnaie, alors que le drame a eu lieu et que les victimes, elles, sont celles du village. Est-ce qu'il s'agit aussi d'un sentiment d'appartenance à la France qui n'est plus celui-là? Vous disiez que pour certains, ils partaient peut-être vers le Maghreb. Est-ce qu'ils y avaient des attaches? Est-ce qu'il faut y voir un affrontement ou le réveil d'un affrontement entre certains qui ne font plus France ensemble?
Bon, déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'ils sont français eux aussi. Hein, ils sont tous français.
Tout à fait. C'est précisé, pour ça que je prends beaucoup de précautions en posant ces questions.
Quand on dit francocide, pourquoi pas parler de guerre civile à ce moment-là, puisqu'on est entre français? Bon, donc ça, c'est le premier point. Je trouve que le mot, là, il colle pas forcément à la réalité. Après, il faut s'interroger sur ce qu'il y a derrière. Je veux dire, pourquoi est-ce que ces jeunes, ça va être une des questions clés du procès en assise qui se déroulera un jour, parce que ces jeunes vont être envoyés forcément devant une cour d'assises, puisqu'il y a mort d'homme. Ça va être, on va s'interroger sur le mobile. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils se sont sentis, je sais pas quoi, vexés? Mais je crois qu'on est plus dans un truc comme ça. Ils ont été vexés.
Une humiliation.
De pas être acceptés. Vexés, humiliés, je ne sais pas. Oui, c'est ça. Ça peut être l'un ou l'autre.
Il fallait s'inscrire pour être dans cette fête.
Oui,
il fallait s'être inscrit à l'avance.
Ils n'ont pas respecté les règles. Déjà, pour commencer, ils respectent pas les règles. Ils veulent s'imposer. Alors après, on apprendra peut-être qu'ils connaissaient quelqu'un à l'intérieur. Ça, on sait pas encore. Et ça a été évoqué, la possibilité qu'ils aient des comptes à régler avec quelqu'un précisément. Mais des vigiles qui... Moi, je connais un vigile qui travaille dans les boîtes de nuit et très régulièrement, me dit-il, à chaque fois le boulot du vigile, c'est de sentir le gars qui n'est pas clair, qui n'est pas net, qui n'arrive pas droit, qui est un peu bourré, qui est un peu défoncé et qui veut rentrer dans la boîte et qui va donc perturber la nuit et la soirée. Donc ça, c'est son métier. Moi, celui que je connais me dit que quasiment toutes les semaines, il y a des individus à qui ils refusent l'entrée parce que justement ils sont coqués, ils sont sous drogue, ils sont défoncés, ils vont pas se comporter correctement dans la boîte et à qui ils refusent l'entrée. Et il sait, et je veux dire les vigiles, c'est pour ça qu'ils sont armés, qu'ils sont un peu, qu'ils ont fait des sports de combat souvent, il sait que l'individu à qui on refuse la boîte risque de revenir. Et combien de fois, mais c'est des dizaines de fois, celui auquel je pense a été confronté à des gars qui reviennent avec un fusil, avec un revolver, avec un couteau. Mais il les voit venir.
Et la première victime touchée, c'est d'ailleurs le vigile en l'occurrence de cette fête.
Et d'après ce que j'ai cru comprendre, on s'en a pris à ses doigts, à ses mains. Enfin, ça va extrêmement loin. Donc effectivement, on a l'affrontement. Entre deux France peut-être, mais surtout entre des voyous et des gens qui ne le sont
mais
pas
le fait
et qui veulent vivre leur vie.
De récupérer. Alors, je ne sais pas si ce sera l'enquête seule pourra dire s'il s'agit En effet, comme vous le dites, on verra bien s'il s'est agi uniquement d'une humiliation au départ de certains qui étaient vexés, ou alors d'un règlement de compte vis-à-vis d'un individu qui était à l'intérieur, ou alors en effet soudain de ressorts qui sont plus de l'ordre d'une opposition entre deux France. Mais le fait que dans le contexte actuel, les politiques, la droite s'en empare, la gauche, à l'inverse, disent qu'il s'agit de récupération. Chacun cherche ses propres victimes, on a l'impression.
On dirait qu'on est en campagne électorale, hein. Déjà, effectivement, chacun cherche sa marche blanche, mais je rappelle quand même que la famille de Thomas a dit qu'elle ne voulait justement pas de récupération politique. Donc on va respecter, moi je vais respecter le deuil, déjà dans un premier temps, de cette famille qui a souhaité qu'on se concentre sur le deuil, précisément. Donc je pense qu'il faut respecter cette volonté. Après, non, mais ce qui est vrai, c'est que moi je suis pour analyser le fait que tous ces événements, tous ces faits se produisaient dans des bouillons, dans des bassins comme ça, très très définis et très délimités, et que l'expansion, je reviens sur le trafic de stupéfiants, parce que c'est vraiment l'extension dans le monde rural, vers le monde rural, vers les villes moyennes, du trafic de stupéfiants qui a transposé ce modèle de violence. C'est-à-dire que, en gros, aujourd'hui, on règle ses comptes à Nîmes comme on les réglait autrefois à Marseille. Et les jeunes marseillais, les jeunes qui avaient innové, qui avaient, disons, breveté cette ultra-violence, l'ont exporté partout.
L'ont exporté, chacun s'en est emparé.
Jusqu'à Valence, jusqu'à Nîmes, etc.
Et jusqu'à...
Je pense que c'est une éclaboussure supplémentaire de cette évolution, de cette extension du trafic
et jusqu'à Crépol,
au-delà de ces territoires.
Merci Frédéric Ploquin. Je rappelle d'ailleurs le titre de votre tout dernier livre, Les réseaux secrets de la police.
Et puis l'histoire de la place Beauvau
et les réseaux secrets qu'il anime. Je ne peux que recommander également La drogue est dans le pré, votre documentaire. Il est 8h53 sur RMC BFM TV.